Quatrième entretien avec Éric Lacascade, metteur en scène.
Éric Lacascade, mais qu'est-ce qui vous intéresse chez Tchekhov? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le théâtre? C'est le théâtre de Tchekhov qui vous intéresse ou c'est la vie de Tchekhov?
Non, c'est le théâtre de Tchekhov qui m'intéresse. La vie de Tchekhov, je m'y intéresse pas directement, je m'y suis intéressé par accident, parce que fréquentant l'homme à travers ses textes, je me suis demandé ce qu'il avait créé dans sa vie de vivant à part du théâtre. Donc je me suis un peu comme ça penché sur son vécu, mais c'est au départ, c'est la pièce qui m'attire, et d'ailleurs pas toutes. Les trois que j'ai montées en fait.
Donc on va inverser nos rapports, on va à partir du théâtre essayer de retrouver ce qui vous intéresse, vous, du vécu de Tchekhov. Qu'est-ce que vous retenez de la vie de Tchekhov? C'est le côté familial, le fait qu'il veuille absolument reconstituer la famille à un moment donné de sa vie?
Je ne savais pas qu'il voulait reconstituer sa famille à un moment donné de sa vie. Son aspect médical m'intéresse. Le fait qu'il soit médecin et qu'il écrive, ses textes aussi cliniques, l'aspect clinique m'intéresse chez lui. Et comment il nourrit son écriture, j'ai l'impression, de son art, enfin, l'art médical. Ça m'a bien fait rêver. Enfin, j'ai pas après cherché à explorer exactement quel était son parcours de médecin et comment il pratiquait. Et s'il soignait d'ailleurs, et s'il soignait bien. Est-ce qu'on sait s'il soignait bien, Tchekhov?
Il soignait comme on peut soigner aujourd'hui au nom du SOS médecin, c'est-à-dire dans l'urgence. C'était pas un médecin de campagne, c'était au fond un médecin qui luttait contre la mort, pour autrui. Est-ce qu'on retrouve ce souci-là dans le théâtre? Parce que vous dites la médecine nourrit le théâtre et l'écriture de Tchekhov. Est-ce que c'est bien vrai, ça? Parce que il semble au contraire vider l'écriture plutôt que de la remplir.
Oh, ça, je ne saurais pas vous dire. Je saurais pas vous dire vider l'écriture, mais vider l'écriture, c'est peut-être justement remplir, laisser à l'acteur la possibilité de remplir l'espace. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est fort. Et c'est en ça qu'il a une humanité, c'est-à-dire une humanité qui veut dire « je vous accueille chez moi, utilisez la maison, prenez la maison ». D'ailleurs, je suis passé chez lui à Moscou. Il écrivait à l'ombre, il écrivait dans un endroit sans lumière quasiment. Assez étonnant, pas comme on met d'habitude son bureau sous la fenêtre, mais dans un endroit obscur.
Pourquoi vous avez retenu Tchekhov? Qu'est-ce que vous... Tchekhov vous a dit en vous?
J'ai trouvé une parenté, j'ai trouvé une filiation, j'ai trouvé un intime qui rencontrait mon intime, j'ai trouvé une matière qui me permettait d'exprimer, de travailler, d'interroger, j'ai trouvé un espace qui me permettait d'être avec les acteurs. Les acteurs, quand ils travaillent sur Tchekhov, sont obligatoirement obligés de proposer énormément. C'est des gens qui sont carrément... on pourrait dire presque coproducteur du spectacle, co-créateur du spectacle. Donc l'implication personnelle de l'acteur, pour moi, est fondamentale dans le travail de plateau. Tout mon travail étant à mi-chemin entre ce qu'est l'être et ce que dit le personnage. De trouver cette parenté, cette filiation, cette limite. Donc Tchekhov me permet ça, nous permet ça, à nous, les gens de théâtre.
Alors, il y a deux structures chez Tchekhov que je trouve assez passionnant. C'est que il y a la structure de la famille, généralement. Puis à l'intérieur de cela, il y a l'égarement. C'est-à-dire que c'est la famille, et cette famille est totalement égarée. Et elle va dans l'égarement comme l'écriture va dans l'égarement. Alors, pour un metteur en scène, qu'est-ce qui se passe?
Que vous voulez dire. J'aime bien ce que vous dites sur cette notion de famille perdue et à retrouver chez Tchekhov. Pour un metteur en scène, qu'est-ce qui se passe? Il faut accepter cet égarement, il faut accepter d'être dans le doute, il faut accepter de se mettre au travail, de chercher, on dit souvent, c'est un peu un cliché, entre les lignes, sous le texte. Mais il faut se mettre en état de laboratoire et d'atelier et de... C'est pour ça que l'aspect médical de la chose, de comprendre quelle est la maladie du corps, quelle est la fièvre, et comment l'appréhender, peut-être pas la soigner, mais comment la faire sienne peut-être, pour déjà soulager la personne qui souffre. Et il y a de ça chez Tchekhov. Comment on fait quand on est metteur en scène? Je ne sais pas vous dire une réponse précise et définitive.
On dit que Tchekhov, c'est le problème de la condition humaine. Mais est-ce que la condition humaine n'a pas raison du médecin? Parce que justement, le médical n'arrive pas à bout de cette famille en crise. Tout va bien, tout est normal, tout est banal, tout est trop banal, et pourtant, rien ne va. Mais ce n'est pas sensible, ce n'est pas lisible, ce n'est pas discible, ce n'est pas visible, et pourtant, tout nous indique que c'est infernal.
Mais c'est ça la force. C'est ça la force de son théâtre. C'est exactement ce que vous dites. C'est à nous à dire. C'est-à-dire, c'est à l'acteur, aux gens qui sont sur le plateau, qui font des propositions au public, à éclairer, à dire, à donner un point de vue, à se mettre en vie, en fausse vie entre guillemets, enfin dans la vie de la représentation, pour dire. Et où Tchekhov est magnifique, c'est qu'effectivement tous les ingrédients, comme vous venez de le dire, sont là. Il a préparé le bon bois pour faire le bon feu. À nous de mettre l'étincelle. Et à faire flamber la chose, et aux spectateurs à venir s'y chauffer. Mais c'est là, comme vous dites, c'est là, c'est présent, c'est là, la matière est là, comme la sculpture est dans la pierre, et il n'y a qu'à trouver la sculpture à l'intérieur de la pierre.
Donc Tchekhov dit, nous sommes là, il n'y a pas de bonheur. Que fait un metteur en scène face à une telle évidence, pour réchauffer un peu cette famille qui se délite, qui s'éloigne, qui s'endort?
Vous savez, je pense qu'une façon d'être dans le bonheur, comme vous dites, encore faudrait-il préciser ce que c'est que le mot, qui pour moi est un mot lointain. Mais déjà, peut-être on peut commencer à s'en approcher si on accepte ce qu'on est. On assume ce qu'on est. On regarde, on pose la chose sur la table et on dit, voilà, telle est ma peur. Elle est là, je l'analyse, je la regarde. Ou l'autre, telle est l'autre. Donc déjà, on s'approche d'un état de compréhension et de savoir qui n'a rien à voir avec un savoir académique, qui n'a rien à voir avec une compréhension, un savoir imposé, idéologique, mais purement humain. Et déjà, on a fait un pas vers, je dirais pas du bonheur, mais quelque chose qui vous renseigne sur ce que vous êtes et ce que vous pouvez être, ce que peuvent être les autres, et vous fait trouver une place un peu plus juste peut-être que celle que vous aviez avant d'entrer dans la pièce. Voilà, juste le travail qu'il fait, c'est formidable chez Tchekhov, c'est qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de condamnation, ou il n'y a pas non plus quelqu'un à sauver. Il y a à être et à assumer ce qu'on est, je dirais. Ça me plaît beaucoup.
Bon, vous allez au théâtre?
Ça m'arrive, oui.
Le rideau se lève. Vous attendez beaucoup de cette pièce et vous voyez un personnage dormir. Comment est-ce qu'un metteur en scène, beaucoup plus tard, peut voir ce sujet un peu tabou? Le sommeil au théâtre. L'endormissement.
Ben déjà, c'est quelque chose de moins traumatisant ou troublant que l'endormissement dans la vie quotidienne. C'est-à-dire, je parle de l'endormissement de l'esprit ou de l'apathie de l'âme. Quand c'est au théâtre, c'est du jeu, donc c'est moins grave. Donc je ne suis pas effrayé. Je le prends comme une proposition en me disant de quelle façon dort-il, comment cela nous renseigne sur la vie qu'il est en train de mener, parce que quand on dort, on rêve, et quand on rêve, c'est... je sais pas combien de temps de sa vie, mais on peut passer 30 ans ou je pense 30 ou 35 ans de sa vie à dormir. Une grande partie de notre vie est consacrée à dormir, donc c'est un état tout à fait passionnant, l'état de sommeil. Qu'est-ce qui se passe par exemple entre le moment où on est en état de réveil, je dirais classique, et l'état d'endormissement, ces 30 secondes ou 7 minutes où on bascule? Que se passe-t-il? Quel est le phénomène physiologique? Quel est le phénomène biologique? Organiquement, qu'est-ce que ça raconte? Comment ça se passe aussi, l'état de réveil, ce moment trouble où on est encore dans un rêve et qu'on en sort? Voilà ce qui m'intéresserait de me poser comme question. Si je vois quelqu'un faisant une proposition de sommeil sur le plateau, je me demanderais en quoi ce sommeil me renseigne sur l'être qui est en train de faire semblant de dormir, puisqu'on fait semblant au théâtre.
Éric Lacascade, vous dites que le sommeil vous renseigne. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce sommeil pourrait vous faire peur? Je vais vous citer, par exemple, Tchekhov. Il ne faut pas expliquer au public, il faut l'effrayer et c'est tout. Et pourtant, il l'effraie avec, éthique, avec douceur. Ce n'est pas le terrorisme de Kafka, ce n'est pas la terreur kafkaïenne.
Je pense que ça rejoint un peu ce qu'on se disait juste à l'instant, c'est-à-dire cet effroi de se retrouver face à soi-même, dans une solitude, et en même temps dans une communauté de vie. Comment accepter les règles et les normes d'une communauté de vie? Comment exister quand même en tant qu'individu dans cette communauté de vie? Individu non égoïste, individu solidaire d'une communauté de vie. C'est aussi l'enjeu de toute notre époque, il me semble, cette solidarité et cette communauté qui tente à être difficile ou à disparaître ou en péril au prix d'un individualisme forcené. Voilà quelle est cette violence douce que nous propose Tchekhov, c'est-à-dire comment on peut exister malgré tout au sein de la communauté des hommes tout en étant une individualité profonde, véritable. Comment on s'accorde avec les autres? C'est une histoire d'orchestre aussi, d'orchestration, de groupe, de communauté. Je reviens souvent sur ce terme chez Tchekhov, mais vous parlez de famille, on peut l'étendre au groupe ou à la communauté plus large. C'est les autres, c'est la vie sociale, traversée de passions, c'est-à-dire les passions qui nous brûlent, qui nous traversent, qui nous enferment, qui nous rendent fous, malades, douloureux, qui nous rendent plein de plaisir. Comment on les accorde avec une société respectable et quelquefois un peu endormie socialement? Le groupe social est un peu endormi. Donc comment accepte-t-on un homme éveillé dans un groupe endormi? Je me souviens chez Ivanov, par exemple. Ivanov est ce que Tchekhov appelait un homme de trop. C'est une chose qui existait en Russie, comme ça, à la fin du 19e. Ivanov est quelqu'un de profondément souffrant, mais quelqu'un qui n'accuse jamais les autres, jamais la société, jamais le groupe, essaye de regarder à l'intérieur de lui-même et se dit « Comment se fait-il que j'en sois là? Comment se fait-il? Qu'est-ce qui m'a amené à être là ?» C'est une interrogation douloureuse, mais en même temps, elle peut paraître douce, peut-être parce que la violence est beaucoup retournée contre soi-même plutôt que contre les autres, donc elle n'est pas terroriste, la violence. Elle est inquisitoriale par rapport à soi. En doute et en interrogation. C'est vraiment là la matière qui est intéressante. Le théâtre n'est pas le lieu des idéologies et des certitudes. Le théâtre est le lieu du questionnement. Et Tchekhov nous offre ce questionnement sur un plateau, je dirais.
Mais vous pensez que ce plateau est exposé ou pas? Je vais essayer d'aller plus loin.
Allons-y.
Il y a beaucoup de silence dans le théâtre de Tchekhov. Et les mots ne font pas de bruit. Et pourtant, il y a du sens, il y a un contenu. Mais on dirait qu'il y a un contenu qui veut absolument s'effacer ou avancer à pas feutrer. Alors là, vous, comme metteur en scène, comment est-ce que vous agissez? Faire du bruit? Insister? Ou au contraire, aller dans le sens du silence?
Tout est bon, tout est à prendre, toutes les façons d'aborder le travail au sein de la mise en scène sur un spectacle. Il faut extrêmement d'ouverture, de guide, de canaux divers. Et effectivement, à certains moments, c'est un travail plein de fureur, plein de violence, plein de rage, plein de cris. À d'autres moments, beaucoup de comme vous dites, de silence, de simplicité, de sobriété. À d'autres moments, des espaces ouverts au groupe et à la communauté, avec des signes qui montrent que cette communauté fonctionne ensemble. Tchekhov, encore une fois, ouvre les possibilités à nous de laisser absolument, à moi, metteur en scène, de laisser le sens ouvert, de ne rien imposer directement au public pour que le public reçoive, comme disait Tchekhov, le choc maximal, l'effroi, si vous voulez, ou la gifle, ou le coup de poing. Il parlait de coup de poing. Tchekhov employait l'expression un peu comme ça, presque vulgaire, si un autre que lui l'avait dit, mais je me souviens d'une de ses phrases où il disait « pan » dans la gueule du spectateur. C'est extrêmement violent. Donc, pan de ce silence et pan aussi avec ce cri ou ce hurlement qui est comme le feu sous la glace.
Est-ce qu'il y a un texte réel face à vous? Ou bien, pour reprendre une formule de Nathalie Sarraute, est-ce que, parallèlement à ce texte, il y a de la sous-conversation? C'est un peu peut-être ça le secret de Tchekhov. Ça murmure dessous.
C'est la force de tous les grands textes. C'est la force de tous les grands textes. Molière, Racine ou Shakespeare, on sent que ça murmure dessous. Et à nous de laisser poindre ce murmure, tout en étant suffisamment subtil pour ne pas l'imposer au spectateur. Et que ce murmure dessous, il en capte toute la force, mais ça reste effectivement quelque chose, comme vous dites, qui est tendre, qui est non imposé, qui est au choix du spectateur, qui le renvoie à sa propre poétique, parce que Tchekhov pose des questions qu'on se pose tous. Ça, on l'a pas dit, c'est quelque chose de très quotidien, banal, simple, les questions existentielles de tous les jours.
C'est-à-dire
comment on aime, c'est-à-dire comment on quitte, c'est-à-dire comment on est quitté, c'est-à-dire c'est quoi être père, c'est-à-dire c'est quoi être frère, c'est-à-dire le rapport au groupe social, c'est-à-dire la violence de la jalousie, c'est-à-dire la tentative ou la tentation de la mort donnée à soi-même, c'est-à-dire la perte de l'autre, c'est-à-dire l'envie de réussite, et d'être connu, aimé, le désespoir d'écrire dans la solitude et de ne pas être compris. Voilà, c'est les grandes, grandes questions existentielles de l'homme que pose Tchekhov. Et si on ne se les pose pas à la mise en scène, effectivement, par rapport à notre propre existence, et c'est là où c'est difficile et douloureux quelquefois pour le metteur en scène ou les acteurs, c'est-à-dire cet auto-regard existentiel, on passe peut-être à côté d'une chose très simple avec Tchekhov, qui est ce retour à soi.
Éric Lacascade, comment percevoir cette écriture? Apparemment, elle est réelle, elle est existentielle, il y a une efficacité, et cependant, c'est une écriture de l'effacement. Donc, qu'est-ce qu'il en est du personnage? Quels sont les personnages de cette écriture-là qui permet aux personnages de se parler, de dialoguer ou de rompre?
Mais les grands personnages sont des personnages qui s'effacent. Les grands personnages ne sont pas des personnages qui hurlent et qui existent contre les autres. Les grands personnages de théâtre sont les autres qui les font vivre. Ceux qui sont autour du plateau, autour de lui. Donc cette écriture de l'effacement est la chose que cherchent les acteurs.
Pas pour c'est en faire des... trop.
Non, à nous de trouver la bonne distance. Vous savez, le théâtre, c'est comme la corrida, c'est trouver la bonne distance avec le taureau, le temple. Donc, comme on dit, et c'est pour ça que ce travail avec Tchekhov est vraiment un travail passionnant, et comme tout travail passionnant, difficile. Mais cette notion d'effacement, de désincarnation, est une mine d'or pour un travail d'acteur.
Bon, alors je peux dire, je suppose que vous avez lu les nouvelles. Je peux dire que les nouvelles n'ont pas de commencement et pas de fin. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose du théâtre, ou au contraire le théâtre marque des temps de commencement et de fin, avec une naissance au début et une mort à la fin?
C'est ce qui se passe dans beaucoup de pièces de Tchekhov. Oui, pour moi, il y a un début et une fin. Oui, c'est une écriture narrative et relativement linéaire. Une histoire.
Il se détruit.
Qui se détruit et qui, tout en détruisant, construit. Évidemment, comme la vie peut abîmer des corps et en même temps construire un autre corps à l'intérieur de ce corps qui s'abîme ou qui se détruit, évidemment.
Abordons Platonov.
Si vous voulez.
Donc, grande œuvre, 20 ans. Je compare toujours Platonov à Tête d'Or. Il y a une folie, il y a un délire. Il y a une liberté, il y a un déluge extrême, extrémiste.
Oui, je suis d'accord avec vous. Oui.
Alors, vous lisez Platonov, et j'aimerais que vous nous parliez de votre lecture. Bon, vous êtes dans votre chambre, entre quatre murs, un jour, vous avez accès à ce texte. Comment vous le lisez, comment vous le ressentez?
D'abord, je lisais pour savoir quel était le texte, quel était l'auteur que j'allais mettre en scène dans la cour d'honneur du Festival d'Avignon. à l'ouverture du Festival d'Avignon dans une nouvelle cour d'honneur. Donc c'est vraiment un moment important dans la vie d'un metteur en scène. Donc je lis avec cet espace dans ma tête, en parallèle. Et quand je lis la pièce, je vais lire après beaucoup d'autres pièces pour essayer d'oublier Platonov. Mais une fois que je l'ai lu, je savais que ce serait la pièce que je montrais. Alors après, j'en ai lu 30, 40, 50 derrière pour me dire est-ce que tu es sûr que tu vas encore... J'avais monté Ivanov, j'avais monté Les Trois Sœurs, j'ai monté La Mouette. Est-ce que tu vas... Et en plus, Tchekhov est un auteur de l'intime et la plupart de tes camarades te disent que ça n'est pas du tout un auteur pour être monté dans un espace aussi grand, aussi vaste et aussi emblématique que la cour d'honneur du Festival d'Avignon. Donc continue à lire, lis, et non, ce texte était rivé comme un clou dans ma tête, voilà, intuitivement je savais que c'était ça que je montrais.
Comment raconter cette pièce?
C'est l'histoire d'un homme qui, comme vous dites, qui est un rebelle, qui est quelqu'un d'extravagant, qui est en même temps le gamin qui est dans la cour de récréation et qui roule des mécaniques et qui a une bande autour de lui d'autres garçons et on court avec lui, on est des cowboys ou on est des fiers à bras et il est le chef. C'est cet adolescent de 15, 16 ou 17 ans qui est au lycée, qui est engagé politiquement et qui écrit et qui est poète et qui fait rêver les autres et dont les filles tombent amoureuses. C'est cet oncle ou ce parrain à une trentaine d'années dans les fêtes de famille qui va raconter des histoires, qui va piquer comme ça des colères et qui est à nouveau la convergence des regards du groupe. C'est cette personne effectivement qu'on admire, dont on voudrait être l'ami. Et qui est insondable, qui est spécial, qui a des sautes d'humeur, qui est troublant, qui est désirant, désirable, et pour les femmes et pour les hommes, et dont on s'approche comme ça. Il n'y a pas une question d'intelligence, c'est beaucoup une question d'énergie. Voilà, déjà c'est ça. Donc c'est ce personnage, les caractères de ce personnage, et à travers la vie de cet homme, qui est comme ça petit instituteur de province, qui rêvait à être un grand homme. Il se rêvait Byron et il s'est réveillé instituteur. Et comme ça, donc, on le voit traverser pendant 2-3 jours une série de situations où il apparaît comme un révélateur de situations. C'est cette personne aussi qui révèle des tensions cachées, toujours cachées, comme on disait tout à l'heure dans l'écriture de Tchekhov. Sa seule présence fait que les situations apparaissent à la lumière et voilà, il va... Mais après, l'histoire est compliquée et simple. Je voudrais pas réduire la pièce à quelque chose de narratif un peu simpliste, un peu... Parce qu'elle est multiple, cette pièce. Elle est pour moi de tout temps. Elle est d'une beauté extraordinaire. Elle est d'un foisonnement épique, magnifique. Elle est de réflexion sensible et très pure et très nette, magnifique aussi. Donc, la réduire serait dommage. Pensons à une lune noire, pensons à un diamant brillant, pensons à un soleil qui vous brûle, et des femmes autour de Platonov qu'il désire, qu'il aime, lui, a priori, aime aussi, mais aime-t-il vraiment, ou est-ce quelqu'un qui répond très bien au désir quand on lui dit « je vous aime », alors lui dit « moi aussi », mais c'est jamais lui qui dit en premier, donc... Avec les hommes, c'est pareil, et ce parcours pendant plusieurs heures de spectacle, arrivant évidemment à la mort.
C'était À voix nue, Anton Tchekhov et l'expérience théâtrale, réalisation Clotilde Pivin.